Ce podcast vous est proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.
Réussir son implantation industrielle, le podcast de BPI France Université.
Dans le cadre d'un projet d'implantation, les procédures administratives sont nombreuses. Certains entrepreneurs disent d'ailleurs avoir découvert des acronymes qui leur étaient jusqu'à présent inconnus. Comment s'y retrouver, Emmanuel ?
Alors, l'ouverture d'une usine est un projet déterminant pour le territoire, pour sa dynamique économique, mais également pour son équilibre environnemental. Il est naturel qu'il soit encadré par l'État. Le risque à maîtriser est cependant le calendrier des études qui influe sur celui de votre projet, leur séquencement. Il ne faut pas commencer trop tôt ni trop tard, sous peine de devoir tout recommencer, et parfois cela coûte cher.
Alors c'est parti, et par où on commence ?
Il existe trois volets à considérer en matière d'autorisation. Le premier volet est celui des documents d'urbanisme. Deux documents font référence, le plan local d'urbanisme, dit PLU, lorsqu'il est porté par la commune, et PLUI lorsqu'il est porté par l'intercommunalité, et le schéma de cohérence territoriale, dit SCOT. Ce sont les premiers acronymes. Le PLU et le SCOT déterminent l'organisation spatiale et les grandes orientations de développement d'un territoire. Ce sont des documents publics, en libre consultation par les entrepreneurs. Ces documents sont très importants parce qu'ils indiquent s'il est permis d'installer une activité industrielle sur le terrain que vous visez. Il arrive qu'un entrepreneur vérifie la constructibilité d'un terrain, à proximité de son usine actuelle, mais pas la capacité du terrain à accueillir son activité. Pour faire un parallèle, certains locaux commerciaux n'acceptent pas l'implantation de restaurants pour limiter les nuisances de voisinage. Si jamais le PLU ne prévoit pas d'activité industrielle sur un foncier que vous avez choisi, vous pouvez demander à adapter ce document. Mais évidemment, cela prend du temps. Une simple modification du PLU ou du PLUI prend en théorie 9 à 12 mois après la réalisation d'une enquête publique. En revanche, si l'implantation engage des constructions plus conséquentes ou non prévues, dans le projet d'aménagement et de développement durable de la collectivité par exemple, il faut faire une déclaration de projet par laquelle l'administration se prononce sur l'intérêt général que présente l'opération. Dans ce cas, la procédure prend entre 12 et 15 mois. Et la difficulté, évidemment, c'est que ces délais sont théoriques. Ils dépendent en effet de la tenue de commission au sein des collectivités. Par exemple, il faut savoir qu'une métropole délibère en conseil métropolitain seulement 4 fois par an.
Entendu. Donc cela concerne le premier volet. Quel est le second, Virginie ?
Le second volet est celui du permis de construire ou permis d'aménager qui est déposé auprès de la mairie. En fonction de la superficie du terrain, de l'importance des travaux, mais aussi de la sensibilité environnementale du territoire, vous pouvez être soumis à une étude d'impact. En dessous de 5 hectares, il n'y a pas d'étude à fournir. Entre 5 et 10 hectares, les demandes sont faites au cas par cas. Au-delà de 10, elles sont systématiques, avec une demande de compensation si les impacts sont jugés importants. De même, au-delà de 10, la commune organisera une enquête publique avant délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Au-delà des délais d'instruction, il faut bien comprendre que la réalisation de l'étude d'impact prend environ 12 mois pour prendre en compte les enjeux naturels selon un cycle écologique complet. Elle est aussi appelée étude 4 saisons. Et il faut la commencer au bon moment, pour ne pas manquer le début d'une saison par exemple, au risque à nouveau de perdre du temps. Ce qui peut être contre-intuitif également, c'est que même si vous êtes sûr de devoir réaliser une étude d'impact, vous devez attendre qu'on vous la demande. Si vous le faites de manière volontaire, vous serez nécessairement soumis à une enquête publique. De même, l'administration risque de vous faire des demandes spécifiques qu'il faut prendre en compte sous peine de devoir tout recommencer.
Voilà donc pour le deuxième volet. Quel est le troisième ?
Et enfin, au-delà de l'étude d'impact environnemental, on considère des études spécifiques à réaliser au titre de l'environnement. Par exemple, des demandes de défrichement, des autorisations liées à la loi sur l'eau. Et dans certains cas spécifiques, d'autres autorisations sont nécessaires. C'est le cas des sites ICPE, installations classées protection de l'environnement, qui dépendent des produits qui sont stockés ou des puissances électriques qui sont utilisées. Et cela arrive plus vite qu'on ne le croit. Par exemple, si vous stockez des produits phytosanitaires. Vous connaissez également peut-être les installations dites Céveso, qui sont des catégories de sites ICPE. Il existe aujourd'hui 25 000 sites ICPE, dont 1 300 sites Céveso en France.
Bien, en comprenant donc que les étapes sont nombreuses, comment faire pour être sûr de ne pas se tromper, Emmanuel ?
Avant tout, notre premier conseil est de se faire accompagner par un expert du sujet. Après avoir pris connaissance de la description de votre projet, de sa surface, de sa zone d'implantation, l'expert produira un cadrage réglementaire et procédural. Ensuite, il fournira un calendrier dans lequel vous allez pouvoir prévoir vos travaux. De manière générale, il faut faire preuve de méthode et s'assurer de ne rien oublier pour ne pas perdre de temps. Nous vous conseillons également d'échanger dès que possible avec la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, afin de valider que l'étude d'impact que vous entreprenez est conforme aux enjeux naturels du site choisi. Mieux vaut un mois de vérification que de perdre un an. Enfin, faites dans la mesure du possible plusieurs études en parallèle. Nous savons qu'il est difficile de se projeter dans l'univers des autorisations, mais il faut comprendre que les nombreuses études sont réalisées par des services différents qui n'échangent pas nécessairement sur votre dossier. Vous pouvez donc obtenir un permis de construire sans avoir réalisé certaines études environnementales obligatoires et penser que vous êtes en droit de commencer les travaux, alors que ce n'est pas le cas. Vous risquez alors d'être contraint à des études après avoir posé votre première pierre, en courant le risque de devoir stopper puis modifier votre projet suite aux conclusions de l'étude. C'est pour améliorer la coordination entre ces services que le ministère délégué à l'industrie a annoncé récemment la nomination de sous-préfets référents à l'implantation industrielle. Ils viendront en soutien aux secrétaires généraux des préfectures, dont le rôle est d'assurer la coordination et l'orientation vers les bons services de l'État.
Virginie, vous avez à nous partager quelques exemples de projets réussis ou au contraire ayant rencontré des difficultés ?
Oui, plein. Et nous allons pour cela donner la parole à Céline Préget, experte du sujet chez Citadia, filiale de l'ACET.
Ça fait maintenant plusieurs années que j'accompagne les opérateurs sur l'installation de leurs entreprises. Et effectivement, les projets réussis, il y en a un certain nombre. Pour autant, ils ont connu des embûches importantes. Et ça, c'est un peu la loi de tous les projets aujourd'hui parce que le contexte réglementaire est complexe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les opérateurs, il s'agit d'obtenir des autorisations pour construire et pour démarrer des travaux. Et le principal retour d'expérience qu'on peut faire en la matière, c'est que les opérateurs se concentrent sur l'obtention du permis de construire parce que c'est quelque chose qui est très connu et usuel dans leur pratique. Mais ils oublient la partie d'autorisation environnementale, ce qui rallonge significativement les délais lorsqu'il faut reprendre les études, notamment pour répondre aux exigences du Code de l'environnement. Donc on a bien deux volets qu'il faut mener en parallèle de manière systématique si on veut réduire les délais. Et c'est quand même ça l'enjeu pour les opérateurs économiques parce qu'ils ont souvent des plannings très contraints. À titre d'exemple, des projets qui sont bien partis sur un permis de construire mais qui avaient oublié de s'occuper de la loi sur l'eau et se sont retrouvés à reprendre un calendrier écologique et perdre plusieurs années pour pouvoir aligner à nouveau les procédures et obtenir les autorisations nécessaires.
Céline Préget, merci pour votre témoignage. Emmanuel, Virginie, merci également. Tous vos conseils sont bien sûr à retrouver sur cette page avec le podcast Réussir son implantation industrielle. Bonne écoute.
Réussir son implantation industrielle, le podcast de BPI France Université.
Ce podcast vous a été proposé par BPI France Université. Retrouvez des centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.